Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21, du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaëlle et je suis la maman d'Arthur et de Charles, qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire et m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. L'été touche à sa fin. Les vacances sont déjà terminées pour certains et la rentrée se profile à l'horizon. Nous sommes le 21 août et c'est donc le moment de vous dévoiler qui se cache derrière le 20e épisode du podcast. Il s'agit de Claire, qui est une des premières mamans d'un enfant porteur de trisomie 21 que j'ai rencontrée suite à la naissance de Charles. Et quelle rencontre ! Quel bonheur de voir quelqu'un parler des possibilités quand tout le monde semble d'abord penser aux difficultés et aux barrages. Discuter avec Claire, c'est se rendre compte de la méconnaissance autour de la trisomie 21. C'est aussi se rendre compte que les problèmes peuvent se résoudre. Et enfin, c'est se rendre compte de l'importance des opportunités que la vie met sur notre chemin. Merci encore du fond du cœur, Claire, pour ta sagesse, tes projets et ton engagement. Et merci d'avoir été sur mon chemin quand j'en avais le plus besoin. Ton témoignage, il est essentiel et je suis si heureuse de pouvoir l'offrir ici. Bonne écoute.
Bonjour Claire, comment vas-tu ?
Bonjour Raphaël, ça va très bien, merci de me recevoir.
Avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté de prendre le temps de partager ton histoire dans le podcast, La Triférence. Je suis certaine qu'elle va inspirer et rassurer beaucoup de monde. Est-ce que tu peux s'il te plaît nous parler un peu de toi et évidemment nous présenter aussi l'extraordinaire personne avec laquelle tu vis ?
Moi je m'appelle Claire, je suis de Nantes, je suis mariée avec Étienne et nous avons trois enfants dont Benoît qui est porteur de trisomie 21 et qui a 8 ans et demi.
Quand est-ce que vous avez appris sa trisomie 21 ?
Alors nous avons appris la trisomie 21 de Benoît très tôt pendant ma grossesse parce qu'il se trouve que j'avais une grossesse qui était très surveillée étant donné que j'ai perdu un premier enfant pendant la grossesse avant Benoît. Donc on l'a su extrêmement tôt, je pense que c'était aux alentours de 2 ou 3 mois de grossesse, quelque chose comme ça. Et puis de toute façon nous n'aurions pas pu passer à côté puisque Benoît avait également une cardiopathie, quelque chose d'assez, qui est très courant chez les personnes avec une trisomie 21.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est 40 à 50%.
Oui, ouais. Exactement.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as vécu cette annonce ?
Alors, nous avons pas eu de soucis avec cette annonce. Enfin, ça ne nous a pas posé de problème. En fait, on a appris donc que Benoît était un petit garçon, déjà. Donc, comme on savait qu'on l'appellerait Benoît si c'était un garçon, voilà, il a eu son prénom tout de suite quand on a su que c'était un garçon. Et puis, en même temps, nous avons donc appris qu'il avait donc une trisomie 21. Et pour nous, c'était pas quelque chose de dramatique. C'était Benoît, un garçon avec une trisomie 21. Et puis, voilà.
C'est juste une particularité.
Exactement, c'était juste une particularité. On était très heureux d'accueillir ce petit garçon.
Et par rapport à la cardiopathie, ça ne vous faisait pas peur ?
Alors, il a été extrêmement bien suivi. Il avait 2 cardiopédiatres anténatales, dont un qui avait suivi notre premier enfant qui est décédé, et puis un deuxième cardiopédiatre qui a pris le relais pour organiser l'opération.
Est-ce que justement le corps médical, ils ont été à l'écoute de ce souhait de poursuivre la grossesse ? Parce que je sais que parfois, malheureusement, les médecins, les gynécologues essaient un petit peu de pousser vers un avortement.
Alors oui, effectivement, c'est très très souvent le cas. Hein. Pour ce qui nous concerne, on avait été très très clair dès le départ. Il n'y avait pas de discussion possible. Donc, de fait, c'était pas un sujet pour nous. Donc, ça n'a pas été un sujet de fait pour eux.
Avec Étienne, ton mari, vous avez tout de suite été sur la même longueur d'onde par rapport à ça.
Oui. Là-dessus, il n'y avait pas de... C'était vraiment pas un sujet. On ne s'est pas posé la question une seule fois, en fait. C'était
une évidence. Évident.
Oui, voilà, enfin, c'était vraiment Benoît qui allait arriver. Effectivement, Benoît, il se trouvait qu'il avait une trisomie 21 et une cardiopathie, mais on n'était pas du tout dans le pourquoi ou dans le... on était dans le comment, en fait. Comment est-ce qu'on va organiser l'opération à la naissance ? Il va falloir le trouver une orthophoniste, une psychomotricienne, un kiné. Enfin, voilà, on était dans le comment, dans l'organisation pour l'accueil de cet enfant, en fait.
Vous connaissiez ce handicap ? Est-ce que cela, ça pouvait impliquer pour Benoît ?
Alors, je connaissais la trisomie 21. Je ne connaissais pas personnellement de personne avec une trisomie 21, mais oui, je savais que voilà, une personne avec une trisomie 21, c'est une personne qui a une déficience intellectuelle et puis qui peut effectivement, par exemple, présenter une cardiopathie congénitale. Voilà, donc c'était ce que je connaissais. Je savais également qu'il y avait des probabilités de pathologie qui étaient plus importantes que la population générale. Enfin voilà, c'était pas quelque chose qui, c'est pas quelque chose de mortel en fait. Voilà, c'était pas quelque chose pour nous de.
Ça te faisait pas peur ?
Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une maladie. Souvent, on parle de handicap, de personnes handicapées, de maladies génétiques. En réalité, c'est une condition génétique, et cette condition génétique, elle va entraîner une probabilité plus importante de développer certaines pathologies, pour le coup, certaines maladies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut aussi diminuer la probabilité d'avoir certaines autres pathologies, comme par exemple les tumeurs solides.
D'accord.
Les personnes avec une trisomie 21 ont moins de tumeurs solides que la population générale. Il y a moins de cancer du sein, par exemple, chez la femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins que dans la population générale. Et donc, pour nous, Benoît a une déficience intellectuelle, donc ça, c'est certain. Mais Benoît n'est pas handicapé. Benoît n'est pas une personne handicapée. Chez nous, Benoît n'est pas en situation de handicap parce que tout son environnement lui est accessible. À partir du moment où l'environnement est accessible, la personne ne peut pas se retrouver en situation de handicap. Et donc, de manière générale, il n'est pas du tout handicapé. Il n'est pas en situation de handicap quand il va à son cours de piano. Il n'est pas en situation de handicap quand il est sur un terrain de basket. Quand il est chez nous à la maison, quand il va jouer au parc.
En vacances.
Voilà. En revanche, c'est vrai qu'il peut se retrouver en situation de handicap quand l'environnement ne lui est pas accessible. Et je dirais que le seul endroit où Benoît se retrouve en situation de handicap parce que l'environnement ne lui est pas rendu accessible, n'est pas universellement accessible.
C'est l'école.
C'est l'école.
C'est vrai que Charles n'est pas encore à l'école, hein, bien sûr. Mais pour le moment, je ne considère pas du tout que je suis en train d'élever un enfant porteur de handicap, en fait. Je n'ai pas du tout ce sentiment.
Mais oui, voilà, il y a une déficience médicale qui est présente, effectivement, la déficience intellectuelle ou l'hypotonie, l'hyperlaxité, tout ça, ce sont des déficiences caractéristiques de la trisomie 21, mais en revanche, ça ne les met pas pour autant en situation de handicap. Ce qui met en situation de handicap, c'est le fait que l'environnement ne soit pas accessible à tous.
Très très intéressant, Claire, merci. Est-ce que tu avais quand même des peurs ou des doutes quant à l'accueil de cet enfant avant sa naissance ?
Alors non, parce que on s'est beaucoup protégé pendant cette grossesse avec Étienne, mon mari. On savait que le fait d'accueillir un enfant avec une trisomie 21 allait remuer des choses chez nos familles. Et donc, on ne leur a pas dit pour la trisomie 21 de Benoît. On l'a dit après, quand il est né. Et je crois même qu'on leur a dit que un ou deux jours après qu'ils aient rencontré Benoît, en leur demandant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Benoît a les yeux un petit peu en amande. Bah voilà, en fait, il se trouve que Benoît a une trisomie 21 et
c'est comme ça.
C'est comme ça et on est très contents, même presque, on a été assez fiers de la particularité de notre enfant, que ce soit un enfant unique finalement. Et donc en fait, en agissant comme ça, on s'est protégé des peurs des autres en fait, des peurs des autres, des doutes des autres. Parce que finalement, d'expérience... Les gens ont souvent des peurs et des doutes qu'ils transfèrent sur nous-mêmes.
C'est vrai.
Et moi, ça, c'est juste quelque chose que je ne veux pas. Si les gens ont peur de quelque chose, ou si les gens doutent de quelque chose, c'est leur problème, c'est pas le mien. et je ne veux pas qu'on transfère ses peurs ou ses doutes sur moi. Je ne veux pas être parasitée, si tu veux, en fait. Donc, en agissant comme ça, on s'est protégé, on n'a pas du tout été parasité par les peurs ou les doutes des autres.
Je trouve ça très, très sain comme méthode. Et est-ce que tu peux, du coup, nous raconter comment s'est passé l'accouchement et surtout la rencontre tant attendue avec Benoît ?
C'était un accouchement, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait, comme pour n'importe quel autre enfant. Et puis après ça, il y a eu la première tétée, parce que ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup préparé pendant la grossesse, l'allaitement de Benoît.
Et ça s'est passé comment ?
Ça s'est très bien passé, ça s'est très très bien passé, malgré la cardiopathie, parce que la cardiopathie peut engendrer un essoufflement. J'avais téléchargé notamment tout un tas de documents sur l'allaitement chez l'enfant avec une trisomie 21, des documents suisses. Voilà, j'étais arrivée à la maternité avec tout ça, en les ayant déjà bien étudiés avant, et donc j'ai eu Benoît au sein très très rapidement. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Pouvoir allaiter son enfant avec une trisomie 21, c'est très positif, très bénéfique pour tout ce qui est motricité orofaciale, pour muscler les lèvres, muscler les joues. Donc c'est quelque chose que j'avais préparé pendant la grossesse et que j'ai pu faire ensuite. Donc ça a été super. C'est Étienne qui a accompagné la sage-femme pour tout ce qui était pesée, taille, mesure, etc. Et donc c'est Étienne qui a découvert que Benoît avait les yeux bleus. Mais en fait, Étienne et moi avons les yeux marrons. Il y a des grands-parents et des arrière-grands-parents qui ont les yeux bleus de chacun de notre côté, donc c'est pas non plus très, très étonnant. Mais
la probabilité était moins forte, quoi.
Bien sûr, voilà, exactement. Et il se trouve donc que dans notre petite famille de cinq, Benoît est le seul à avoir les yeux bleus. Voilà.
Avec maintenant plusieurs années de recul, ce que tu vis avec Benoît, est-ce que ça ressemble à ce que tu t'étais imaginé lorsque tu étais enceinte ?
Alors, je ne m'étais pas imaginé grand-chose enceinte sur ce que ce serait après. Enfin, je suis quelqu'un de très ancré dans le présent et j'anticipe les choses qui sont anticipables. Mais je me projette pas dans quelque chose que j'aimerais ou dans un imaginaire lointain ou qui n'a pas forcément lieu d'advenir. Voilà, je m'étais pas forcément beaucoup projetée sur ce que serait l'avenir. En revanche, il est certain que ce qui est aujourd'hui notre vie, ce qui est aujourd'hui ma vie en plus de manière plus personnelle, du fait de la présence de Benoît, ça j'aurais de toute façon pas pu du tout l'imaginer. C'est vrai que notre vie aujourd'hui, et ma vie en particulier, a aujourd'hui pris un cours dont Benoît a marqué de l'empreinte, et qui a fait que les choix que j'ai faits ensuite ont été faits sans doute aussi parce que Benoît est là. Et donc c'est des choses que j'aurais évidemment pas pu, j'aurais pas pu l'imaginer, c'était pas imaginable.
Et en soi, moi je trouve ça très bien de pas imaginer à quoi la vie pourrait ressembler avec la trisomie 21, parce qu'en fait, alors peut-être pas dans votre cas, mais dans le cas de beaucoup, quand on imagine, en fait quand on connaît pas, ça fait peur. On imagine des choses qui font peur, et la réalité c'est que ça fait pas du tout peur en fait.
Exactement, oui. Oui, et c'est vrai que se faire peur avec des choses qui peut-être n'arriveront jamais, c'est dommage, voilà, effectivement.
Et du coup, est-ce qu'il y a eu des étapes quand même difficiles à vivre pour toi depuis sa naissance et qui ont bien sûr un rapport avec sa trisomie 21 ?
Alors, pas vraiment, enfin en tout cas quand j'y réfléchis, pas vraiment. Au niveau médical... Il y a eu cette cardiopathie, donc Benoît s'est fait opérer de sa cardiopathie à 5 mois de vie. Ça s'est très très bien passé, c'est une opération sérieuse hein, bien sûr, à cœur ouvert. Il a été extrêmement bien pris en charge. Néanmoins, là encore, c'est quelque chose dont nous n'avons pas prévenu nos parents et nos familles, ni nos amis. Ils savaient que Benoît avait une cardiopathie, qu'il allait devoir se faire opérer, mais on ne les a pas tenus au courant de la date d'opération. Bon, nous-mêmes, de toute façon, nous avons été prévenus de la date d'opération 2 jours avant. Mais on l'a gardé pour nous et on n'en a parlé que le lendemain de l'opération, on a envoyé un texto à tout le monde pour dire « Benoît s'est fait opérer, ça s'est bien passé ». Encore une fois, pour pas que leurs peurs et leurs inquiétudes nous parasitent. De manière à ce que, on n'ait pas à gérer la peur des autres, quoi, en fait. Ça, c'est pas agréable du tout. C'est pas quelque chose de simple, mais... Depuis, Benoît n'a pas eu de problème de santé important. Il a un suivi, comme pour tout enfant avec une trisomie 21, qui est très étroit. ORL, ophtalmo, pneumologue, la totale. Mais qui, au final, on reprend rendez-vous tous les ans, une fois sur l'autre. C'est rentré dans notre quotidien. J'ai un agenda spécialement pour ça, donc c'est pas compliqué ce genre de choses. Ce qui est peut-être plus difficile, encore une fois, c'est l'école.
Bon, du coup, on va parler justement de l'école. Donc, Benoît est scolarisé en milieu ordinaire.
Oui.
En quelle classe il est ?
Alors, Benoît, cette année, redoublait son CP.
D'accord, donc CP ordinaire.
Exactement.
Et ça se passe comment, ce redoublement de CP ?
Alors, pour lui, ça se passe bien, en soi.
Oui.
Pour lui, ça se passe bien. Il faut savoir que Benoît, il a été plongé, je dirais, dans le milieu ordinaire dès le départ. En fait, nous, on ne s'est jamais posé la question du milieu spécialisé. Donc, Benoît est rentré, après son opération, il est rentré à 9 mois de vie en crèche collective. 10 heures par jour, 5 jours sur 5.
Oui, la totale. Voilà.
Comme nous n'avions pas décidé d'arrêter de travailler, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Hein. Donc, Benoît est rentré à la crèche, temps plein. Et puis ensuite, quand est arrivée l'école, c'est pareil. Alors, il a été au départ scolarisé en école privée. J'avais anticipé, en rencontrant plusieurs directeurs d'établissements, des écoles publiques, des écoles privées. Et puis, j'ai finalement choisi donc, cette école-là. J'avais anticipé aussi le dossier un an avant pour l'AVS, là, ce qu'on appelle AESH maintenant. Et cette première année de petite section, ce n'est pas extraordinairement bien passé. Donc, Benoît n'était pas propre. Ce n'est pas absolument requis pour rentrer à l'école, hein, pour n'importe quel enfant. D'autant plus pour un enfant en 2021, ce n'est absolument pas requis. Mais forcément, ça questionne, ça embête. L'année de petite section s'est passée, on va dire ça comme ça. Et puis, il se trouve que nous avons déménagé à la fin de cette première année. Et donc, nous avons décidé de scolariser Benoît dans l'école publique, cette fois-ci, de notre nouveau quartier. Donc, il est rentré en école publique, en moyenne section. Il a fait sa grande section ensuite, toujours avec une AESH. Les enseignants souhaitaient que Benoît redouble sa grande section. Nous, on n'y voyait pas d'intérêt. Moi, je préférais qu'il redouble son CP plutôt que de redoubler sa grande section, mais je souhaitais qu'il soit le plus tôt possible immergé dans l'écrit, donc dans l'apprentissage de la lecture.
On ne peut pas faire les deux, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est ça ?
Alors, plein de gens diront que non, notamment l'école, sauf qu'en réalité, le maintien, ce qu'on appelle maintien maintenant, est quelque chose... de peu apprécié aujourd'hui dans l'éducation nationale. Ils essayent de tout faire pour qu'on ne redouble pas.
Même avec handicap ?
Avec ou sans déficience, aujourd'hui, l'éducation nationale ne privilégie pas les maintiens. Préfère que les élèves passent avec maintenant des compétences qui sont évaluées par cycle. Se trouve qu'à un moment donné, pour passer en ULIS, donc toujours en milieu ordinaire, notamment donc, au collège, il faut avoir un certain âge et pas forcément plusieurs années de plus. Donc, stratégiquement parlant, il n'est pas intéressant de redoubler deux fois au primaire. Parce que si on redouble deux fois au primaire et qu'on rentre ensuite en ULIS collège, eh bien, en fait, on ne pourra pas faire autant d'années d'ULIS collège que l'enfant est juste. Voilà, donc c'est stratégiquement parlant, il faut bien y réfléchir. Et donc nous, de toute façon, on avait commencé déjà à immerger Benoît dans les alphas, qui est une méthode de lecture qui est très chouette, pour notamment tout ce qui est maîtrise des phonèmes, des graphèmes ensuite. Donc ça, nous, on l'avait déjà commencé assez tôt, et donc on souhaitait vraiment que Benoît puisse être immergé dans l'écrit rapidement, et qu'il fasse deux CP s'il y avait deux CP à faire. Et donc effectivement, bah, Benoît a fait 2 CP. Il est inclus en milieu ordinaire complètement. Hein.
Ouais.
Il n'a jamais eu de réduction du temps scolaire. On l'a toujours refusé. On n'a jamais accepté ce genre de choses. Donc Benoît va à l'école tous les jours.
24 heures par semaine.
24 heures par semaine. Il va à la cantine tous les midis. Il va au périscolaire le soir jusqu'à 18h30. Et il va au centre de loisirs le mercredi après-midi. Voilà, donc il est totalement inclus.
Ah oui, il y est même plus que d'autres, à mon avis.
Il y est peut-être même plus que d'autres, effectivement, qu'ils aient ou non une déficience.
Ah oui.
Ça se passe très bien socialement parlant, c'est-à-dire que Benoît a des petits camarades. Il est très apprécié des animateurs du périscolaire, du centre de loisirs, même des parents de ses petits camarades d'école. Donc il est inclus, géographiquement parlant, il est dans la classe. Il est dans l'école, il est dans la cantine. Maintenant, en termes de participation aux enseignements, c'est beaucoup plus problématique. C'est beaucoup plus problématique puisque, j'imagine pour différentes raisons, mais nous avons, nous, en tout cas, le sentiment qu'en termes d'enseignants, il faut tomber sur quelqu'un qui est en vie. Et bah, c'est pas toujours évident, en fait. C'est pas toujours évident parce que il y a beaucoup de personnes dans la société, hein, de manière générale, et donc les enseignants n'y coupent pas, ils en font partie
oui,
aussi,
tout à fait.
Qui n'ont pas de représentation de personnes adultes avec une trisomie 21 dans leur entourage. Et donc, j'ai le sentiment que c'est compliqué pour l'école, pour les enseignants, même l'enseignant référent, hein, même... l'inspection de l'éducation nationale, les inspecteurs, les inspectrices, de se demander, de se dire à quoi ça sert que cet enfant soit là dans ma classe, en fait.
Quoi. Ils ne pensent pas que c'est possible.
Ils ne connaissent pas d'adultes ou de jeunes adultes avec une T21 qui sachent lire, écrire, compter. Et donc, ils doutent, typiquement, ils doutent. Ils doutent que cet enfant qui est dans leur classe va réellement pouvoir apprendre à lire et à écrire et à compter. J'ai ce sentiment-là, que c'est vraiment un manque de représentation de ce que peut être une personne avec une trisomie 21 plus tard. Soit elle est négative, soit ils n'en ont pas. Et donc, c'est difficile pour eux d'emmener un enfant différent, un enfant qui apprend différemment, un enfant pour qui il y a un banc de latence, un enfant qui n'est pas toujours oralisant, qui a besoin de plus de temps. C'est compliqué d'emmener cet enfant-là vers quelque chose qu'ils n'ont pas en tête. Déjà, ils ne savent pas exactement comment faire. Et puis est-ce que vraiment ses parents sont censés, quoi ?
Est-ce que les parents attendent trop de leur enfant ?
Est-ce que ses parents ne sont pas fous, quoi ? Est-ce que vraiment... Oui, exactement. Est-ce que ses parents veulent que j'enseigne à lire et à écrire Mais j'ai jamais vu ça, en fait. Est-ce que vraiment une personne avec une trisomie 21 peut apprendre à lire, peut apprendre à écrire ? J'en sais rien. Donc je pense qu'ils ont ces réflexions-là, ils ont ces représentations-là. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour nous, parents, de casser ça. Et de leur dire, mais si, vous allez voir, c'est possible.
Mais parce qu'en fait, est-ce qu'il y a un dialogue par rapport à ça ou pas du tout ?
Plus ou moins.
Est-ce que tu dirais que tu es en conflit avec eux ?
Non, je ne suis pas en conflit, parce qu'on ne veut pas l'être, hein. Donc oui. On n'est pas en conflit, au contraire, Étienne et moi, mon mari et moi, on essaye au maximum de leur simplifier la vie, donc nous sommes allés leur chercher une AESH 24 heures, en Loire-Atlantique, la MDPH ne donne que 12 heures d'AESH maximum.
Ah bon ?
C'est la tendance, c'est la directive, on va dire ça comme ça. Donc moi, tu imagines bien que c'était pas ce que je souhaitais.
Oui.
Donc je suis allée arracher à la MDPH les 24 heures.
Mais alors comment as-tu fait, Claire ?
Alors, je m'appuie beaucoup sur les textes de loi. Et donc, je ne prends jamais un non pour définitif. Bien tout simplement, quand je fais un dossier MDPH, je m'y prends tôt. Donc je m'y prends un an à l'avance. Je leur demande ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si tous tes auditeurs sont, comment dire, habitués aux sigles, mais je leur demande leur proposition d'abord, qui est quelque chose que nous devons avoir, hein, si les parents le demandent, la proposition avant la notification, nous devons l'avoir, donc je leur demande la proposition, et au bout de 4 mois, si je n'ai pas obtenu de réponse, je lance un recours gracieux pour absence de réponse, puisque... Pour toute administration, l'absence de réponse au bout de 4 mois vaut refus. Donc à partir de ce moment-là, on peut lancer un recours gracieux. Donc je lance un recours gracieux et lors de ce recours gracieux, la MDPH a 2 mois pour répondre. Donc ça permet aussi d'accélérer un peu les choses. Lorsque j'ai leur proposition, si leur proposition ne va pas dans mon sens, eh bien je leur demande aussitôt à être reçue en CDAPH. Je conteste et je demande à être reçue en CDAPH. Et en CDAPH, nous venons toujours à deux, avec Étienne, mon mari, et avec Benoît. Je pense que c'est important d'avoir son enfant présent pour que ce ne soit plus seulement un numéro, mais ce soit un enfant avec un visage, avec un prénom, et qu'il soit donc présent lors de la commission CDAPH. Et donc en commission, je reste toujours très diplomate, mais je parle franco, sans détour et de manière très franche, et je n'hésite pas à porter avec moi les textes du Code de l'éducation et du Code de l'action sociale et des familles. Et donc, je réclame avec les documents également des professionnels de santé à l'appui, ce qui correspond aux besoins de Benoît. Et en l'occurrence, Benoît, notamment parce qu'il n'était pas encore continent, il a besoin d'avoir une AESH à temps complet.
Individuelle et à temps complet.
Voilà, également individuelle. Et donc, je pense que la dernière fois, j'ai dû bien performer, puisqu'on a obtenu 24 heures d'AESH pour 5 ans. Donc, jusqu'à la fin du primaire. Bon, c'est peut-être parce qu'ils ne veulent plus me voir. Mais en tout cas, voilà, on les a obtenus. La sueur au front, mais on les a obtenus.
C'est ça qui n'est pas normal.
Oui, ça c'est certain. Mais donc, l'école a, pour Benoît, dispose d'une AESH à temps complet. Alors après, c'est toujours pareil. Hein, ce n'est pas parce qu'on a la notification que l'AESH est forcément présente. Puisqu'après la notification, c'est à l'Académie de l'Éducation nationale
de recruter.
Voilà.
Un autre problème.
Et donc ça, c'est un autre souci. Pour le coup, moi, c'est pareil, je n'hésite pas non plus. Si l'AESH n'est pas là à la rentrée, par exemple, je dégaine la mise en demeure du rectorat. L'année dernière, en septembre dernier, c'est ce qui s'est produit. Dans la journée, le premier jour de la rentrée, était envoyé, copie terre entière, mes courriers en recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du rectorat. Et un mois plus tard, l'AESH était présente. Donc après,
C'est beaucoup de papier.
C'est ça qui est franchement
usant.
Usant. Ouais, ça c'est réellement usant. Et puis après, on essaye aussi d'aider les enseignants en leur apportant tout ce qu'on peut nous leur apporter. Donc par exemple, j'avais différencié le manuel de lecture de Benoît. J'avais tout réécrit en gros caractères sur des feuilles A4 en mettant les graphèmes en couleur. Avec un logiciel qui s'appelle Lire Couleur. Donc, c'est des choses voilà, qu'on apporte pour que ce soit plus simple aussi, parce que...
Des supports.
Voilà, c'est sûr que ça demande un gros travail hein, pour les enseignants de différencier, de autant différencier peut-être pour un enfant avec une déficience intellectuelle, je ne sais pas. Voilà, faudrait leur poser la question directement sur la difficulté que ça... ou la complexité, ou en tout cas le temps que ça leur prend.
Oui, pour un élève, c'est ça.
Voilà, d'autant plus que Benoît, évidemment, n'est pas le seul dans sa classe. On essaye au mieux de les aider, de les accompagner et de leur faciliter la vie.
Ils acceptent cette aide, ce soutien?
Alors, plus ou moins.
Je pense que c'est inutile, c'est ça?
Alors, tout ce que je dis, hein, bien sûr, c'est pas forcément à généraliser. Je pense que ça tient vraiment aux personnes à qui l'on a affaire. Donc, une année, on pourra avoir quelqu'un qui a pas du tout envie, que ça n'intéresse pas, qui a des appréhensions. Et puis peut-être que l'année suivante, on aura quelqu'un qui aura envie de se développer, de monter en compétences grâce à Benoît sur tout un tas d'autres choses en termes de pédagogie. Cette aide ou cet accompagnement qu'on apporte, c'est plus ou moins accepté, plus ou moins bien vu. Mais
Et est-ce que tu ressens du découragement par rapport à ça?
Je peux être... Non, je ne suis pas découragée, non, je suis en colère. Ou alors, le découragement, ça va être très ponctuel, en fait. Ça va être...
Passager, ouais.
Voilà, ça va être très passager parce que on a, avec Étienne, avec mon mari, on a un objectif pour Benoît. La lecture, l'écriture et le calcul à la manière d'une personne avec une trisomie 21. à la fin du primaire, donc à la fin du CM2. Ça, c'est vraiment notre objectif parce que l'écriture, le calcul et la lecture, encore une fois, à la manière d'une personne avec une trisomie 21, hein, on n'attend pas de lui qu'il soit premier de classe, bien évidemment que non, c'est évident. Mais c'est quand même la base pour que n'importe qui puisse être à minima autonome ou semi-autonome. Et c'est à la portée d'une personne avec une trisomie 21. C'est tout à fait à la portée. L'école primaire, elle a été mise en place il y a des dizaines et des dizaines d'années pour ça, pour que la majorité des citoyens français puissent se débrouiller dans la vie, en sachant lire, écrire et faire des additions et des soustractions, et donc pouvoir se débrouiller, ne serait-ce que pour aller s'acheter à manger. Donc pour nous, c'est notre objectif, et c'est quelque chose qu'on ne perd pas de vue. Et donc finalement, les à côté, les difficultés, les obstacles qu'on va pouvoir nous mettre, voilà, ce sont des à côté. Notre objectif à nous, ça reste celui-là, on ne le perd pas de vue. C'est pour ça que j'en veux à personne, j'en veux pas aux personnes en elles-mêmes, en tout cas clairement pas. Par contre, oui, le système me met en colère. Le système me met en colère, mais on garde cet objectif et donc on s'adapte. Donc on fait travailler Benoît un petit peu quand on peut.
Ouais,
c'est-à-dire
le week-end, quand, les vacances.
Voilà, c'est ça, quand on n'est pas trop fatigué non plus, quand on travaille, on a d'autres enfants. Voilà, il y a toute la vie, le quotidien, faire les papiers, comme n'importe qui, hein, comme n'importe quelle famille. Donc, on s'adapte, on essaye effectivement de le faire travailler un petit peu pendant les vacances, et puis les week-ends, un petit peu le soir, quand on peut. Voilà, on se débrouille, et puis on garde notre objectif en tête de manière à ne pas se laisser décourager justement par les obstacles ou les difficultés qui peuvent surgir sur notre chemin.
Et justement, le quotidien avec deux autres enfants, est-ce que c'était une évidence pour vous d'avoir des enfants après Benoît ?
On a toujours voulu une famille nombreuse. Donc trois, ça nous semblait bien, parce qu'on ne voulait pas non plus trop nombreux. Mais trois enfants, ça nous paraissait bien. Moi, je suis issue d'une famille de trois, mon mari aussi. Donc nous souhaitions trois enfants. Et effectivement, alors Alexandre, notre enfant suivant, est arrivé 21 mois après Benoît.
Ah oui, rapproché.
Voilà, ils ont une année civile de différence et franchement c'est chouette parce que ils sont très très proches, très 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 proches. Ils grandissent ensemble, ils dorment dans la même chambre, on les retrouve d'ailleurs très souvent dans le même lit le matin. Ils font les mêmes activités, les mêmes bêtises. Quand il y en a un qui entraîne l'autre, l'autre suit avec plaisir. Donc et puis ensuite on a eu Virgile, le petit dernier, qui lui a 5 ans de différence avec Benoît et 3 ans de différence avec Alexandre. Ça fait une jolie fratrie, que des garçons. Ça fait une jolie fratrie assez soudée, qui s'amuse pas mal ensemble, se chamaille aussi. Voilà, comme n'importe quels enfants. Mais je pense que, en tout cas, vis-à-vis de Benoît, ça le fait grandir. Chez nous, la trisomie 21, c'est pas un sujet. Donc, c'est ni un sujet pour nous, mon mari et moi, ni pour les frères.
Ils savent que Benoît est porteur de trisomie 21.
Alors...
Ou pas.
En fait, j'ai expliqué à Alexandre, effectivement, Benoît avait une déficience intellectuelle.
D'accord.
Parce qu'il avait une trisomie 21. Voilà, et donc que Benoît faisait les choses plus lentement que les autres. Mais c'est pas quelque chose qu'on a expliqué pour lui expliquer, en fait. Il nous a posé une question, ça devait être cette année, en début d'année, parce que lui aussi, arrivant en CP, il s'est retrouvé sur la même cour de récréation que son frère, de nouveau. En primaire, il a dû entendre, parce que justement, comme on le disait plus tôt, la société utilise beaucoup le mot handicap, il a entendu que certains enfants lui disaient que Benoît il avait un problème, que Benoît était handicapé. Et donc moi, je lui expliquais que non, Benoît n'est pas handicapé, Benoît a une déficience, ce qui n'est pas la même chose, mais que Benoît n'est donc pas en situation de handicap, que le handicap est une situation, et tout ce que j'ai pu t'expliquer tout à l'heure. Donc voilà, mais ça dit, c'est tout, en fait. Et Virgile, c'est pareil.
Oh, il est plus jeune encore.
Oui, et puis c'est pas... Enfin, en fait, ce sera la même chose. C'est-à-dire que on n'a jamais parlé de trisomie 21 pour parler de trisomie 21. Ils entendent le mot parce que nous faisons partie notamment de trisomie 21 Vendée. Et puis de rien qu'un chromosome en plus. Donc, des enfants avec une trisomie 21, nos garçons, on en a plein. Et pas simplement des enfants, des jeunes adultes, des adultes. Voilà, c'est pas un sujet. Pas un sujet du tout. Nous sommes contents d'avoir cette fratrie qui est très soudée et qui est finalement comme n'importe quelle fratrie d'enfants classiques.
Est-ce que tu as l'impression d'être une mère différente pour Alexandre et Virgile de la mère que tu es pour Benoît ?
Non, clairement pas. Non, parce que en fait, je les gronde tous les trois quand il faut les gronder, de la même manière. Alors à la maison, on est très à cheval sur la politesse. Donc même si Benoît a moins de langage oral, c'est très important pour nous que les trois disent merci maman, bonjour monsieur. Ils sont éduqués de la même manière. Ils sont éduqués de la même manière. Je suis la même maman pour les trois. Après, mon temps administratif...
Oui, pas divisé pareil.
Mon temps administratif, voilà, n'est pas tout à fait divisé pareil. Et effectivement, le carnet de santé de Benoît est beaucoup plus épais. D'ailleurs, ce sont des classeurs que pour Alexandre ou Virgile. De la même manière, j'ai pas de dossier MDPH à faire pour Alexandre et Virgile, quoi. Donc... Forcément, oui, ce temps-là est différent pour Benoît que pour les autres. Mais sinon, c'est pareil.
D'accord.
C'est pareil. D'autant plus qu'ils font les mêmes activités. Donc, je les emmène à la musique, pareil. Au sport, pareil. Voilà, les loisirs sont les mêmes. Quand on joue à des jeux de société, on joue ensemble.
C'est pareil. C'est vachement intéressant pour ceux qui connaissent pas et qui pourraient se demander qu'est-ce qui est différent, en fait, finalement, à part les papiers et certains rendez-vous supplémentaires, c'est pas différent, quoi.
Non, c'est pas différent. En fait, chaque enfant est différent, ça c'est certain, oui. Et donc on va accompagner chaque enfant en fonction de ses besoins. Et donc il va y avoir, Benoît, lui, il a besoin que je l'emmène chez l'orthophoniste, donc ça, c'est effectivement, on le fait. Mais Virgile va peut-être avoir, lui, besoin que je le rassure plus avant de se coucher. Je le ferai aussi, en fait. Il y a des besoins, et puis chaque enfant a ses besoins, et on répond aux besoins de chaque enfant, finalement.
Oui, ses besoins, et des périodes différentes, et tout ça.
Voilà, oui.
Et du coup, tout à l'heure, tu disais que sans Benoît, il y avait plein de choses dans ta vie que tu n'aurais pas fait. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de quelque chose que tu n'aurais pas fait, par exemple ?
Oui. y en a plusieurs, hein, mais c'est vrai que je pense que la plus prégnante aujourd'hui, c'est le fait que j'ai repris des études. Il se trouve que j'ai repris des études d'orthophoniste. Enfin, je ne me suis pas levée un matin en me disant je quitte mon travail et je reprends des études d'orthophoniste. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de quitter mon travail pour un congé de mobilité. Dans le cadre de ce qu'on appelle une rupture conventionnelle collective dans mon entreprise. Et donc, j'ai choisi de reprendre des études en orthophonie. Alors, effectivement, l'orthophonie, c'est clairement lié à la trisomie 21, mais pas que, parce qu'en fin de compte, dans mon parcours de formation et mon parcours professionnel, c'est assez cohérent, puisque avant, j'étais chercheur en neurobiologie. Donc, en orthophonie, il y a beaucoup de neuros, de neurologie, et c'est totalement en lien.
Un gros rapport.
Voilà, il y a un gros rapport, et puis effectivement, il y a aussi un gros rapport avec la déficience intellectuelle, quelle qu'elle soit, et donc la trisomie 21. Donc ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est en lien avec le fait que Benoît soit là. Et puis, d'autres choses que j'ai faites que je n'aurais sans doute pas fait, c'est effectivement aussi m'engager au niveau associatif, auprès notamment de Trisomie 21 Vendée, et puis de Trisomie 21 France. Et ça, c'est certain que c'est pas quelque chose que j'aurais fait. En tout cas, je ne pense pas que je l'aurais fait si Benoît n'avait pas été là, parce que j'aurais sans doute fait d'autres choses ou l'opportunité ne se serait sans doute pas présentée. Moi, je fonctionne beaucoup aux opportunités, au moment présent, et je vois les opportunités qui se présentent. Et souvent, je dis oui aux opportunités qui se présentent, ce qui est peut-être pas toujours top, parce que l'emploi du temps se remplit très vite quand c'est comme ça. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de rentrer à Trisomie 21 Vendée, puis de rentrer à Trisomie 21 France, puis j'ai eu l'opportunité de reprendre des études, et donc j'ai choisi orthophonie. Et voilà, et en fait, tout cela est très cohérent, et je suis assez heureuse d'avoir une vie personnelle, professionnelle, associative, sur la même ligne, quoi.
Et du coup, quel est ton rôle un petit peu dans les associations alors ?
Alors, donc à Trisomie 21 Vendée, je suis membre active et secrétaire adjointe. Et puis à Trisomie 21 France, je suis au conseil d'administration depuis l'an dernier et je viens récemment de rentrer au conseil scientifique de Trisomie 21 France. Ça implique pas mal de réunions avec Trisomie 21 Vendée, avec Trisomie 21 France, bah, pour prendre des décisions, notamment au conseil d'administration, pour discuter voilà, sur les orientations, etc. Et puis, je fais aussi pas mal de... Enfin, j'essaye de me former auprès de Trisomie 21 France sur le rôle de facilitateur ou de facilitrice. Et le week-end dernier, par exemple, pour parler que du week-end dernier, j'ai assisté à une formation avec des personnes avec ou sans déficience intellectuelle. Ce sont des formations qui s'adressent à tous, à qui souhaitent au sein des associations départementales de la fédération, pour être à mon tour formatrice en binôme avec une personne ou des personnes avec ou sans déficience intellectuelle, sur l'autoreprésentation notamment. Donc ce sont des choses qui sont réellement passionnantes, enfin moi en tout cas qui me passionnent, et qui sont, je pense, fondamentales pour faire progresser la société. Trisomie 21 France est une fédération d'associations territoriales, dont fait donc partie Trisomie 21 Vendée, qui milite pour faire avancer la société, et notamment la participation sociale des personnes avec une trisomie 21, ou avec une autre déficience intellectuelle.
D'accord.
Notamment pour que les personnes elles-mêmes, les personnes concernées, qui donc ont une trisomie 21 ou une déficience intellectuelle, puissent elles-mêmes aussi se représenter, parler en leur nom, voilà, se représenter elles-mêmes et représenter les autres, faire leurs propres choix et pouvoir les affirmer et participer à la vie de toutes les institutions ordinaires dans la société.
Et d'ailleurs, on ne s'était pas rencontrées toutes les deux à... Le projet, c'était Ma Voix Compte, non ?
Oui, exactement.
Ouais.
On s'est effectivement rencontrés, toi et moi, à Toulouse. Il me semble que c'était lors de la journée fédérale 2021.
C'était 2021.
Voilà, donc c'était la journée fédérale 2021, où toutes les associations qui composent la fédération pouvaient se retrouver donc, à Toulouse. Et effectivement, il y a... un beau projet, enfin qui est un programme, donc qui s'est appelé Ma parole doit compter, qui s'est ensuite appelé Ma parole compte, je crois, et qui aujourd'hui s'appelle Fais entendre ta voix.
D'accord.
Et qui est justement, dont l'idée est effectivement que les personnes puissent faire entendre leur voix. Et
d'après toi, quels sont les plus grands freins du coup à une inclusion réussie ? Est-ce que c'est que l'éducation nationale le problème ?
Le plus grand frein, ou les plus grands freins, je pense sincèrement que ce sont les représentations négatives ou le manque de représentation, en fait, de ce que c'est qu'une personne avec une trisomie 21. On ne peut pas avoir d'ambition pour son enfant, pour son élève, pour son collègue avec une trisomie 21, si on n'a pas en tête que c'est possible, en fait. Quand on ne s'imagine pas que c'est possible, quand on n'a pas de personne en tête pour qui ça a été possible ou de modèle, ou... Bah, c'est compliqué, en fin de compte, de se motiver ou de ne pas douter, d'avoir envie, en fin de compte, d'accompagner la personne, de l'instruire. Je pense que ces représentations positives, se dire que bah, oui, si, c'est possible, d'ailleurs, je connais un tel qui fait ci ou qui fait ça, donc bah, bien sûr que c'est possible, on va y aller, quoi. On y va. Je pense que les plus grands freins, c'est ça. D'où d'ailleurs l'importance que les personnes elles-mêmes puissent s'exprimer, puissent montrer ce qu'elles savent faire, puissent aussi exprimer les besoins en termes d'aide qu'elles ont, et qu'on puisse aussi les écouter.
Et est-ce que tu souhaiterais faire passer un message supplémentaire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ?
Si je devais passer un message pour les jeunes parents d'enfants avec une trisomie 21, je voudrais leur dire ne vous inquiétez surtout pas, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, ça va le faire. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos associations trisomie 21 départementales, c'est d'une grande richesse. C'est d'une très grande richesse aussi de connaître des jeunes adultes et des adultes pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, pour pouvoir se dire qu'effectivement c'est possible. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas de personnes avec une trisomie 21 qui n'en ont pas forcément dans leur entourage, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner, à chercher à en connaître, à contacter, pourquoi pas, des associations. Il y a plein de très beaux reportages, il y a de très belles vidéos sur Internet. Moi, je m'en étais beaucoup imprégnée. J'avais regardé beaucoup de vidéos, notamment américaines, de personnes avec une trisomie 21, pendant que j'attendais Benoît. Et ça montre à quel point la vie avec une personne avec une trisomie 21 peut être très belle, comme la vie avec n'importe qui, finalement. Et voilà, ça vaut le coup.
Merci beaucoup Claire pour ce moment avec toi. Je pense que ça portera beaucoup au podcast, ton interview. Alors merci à toi.
Je t'en prie. Ça a été un grand plaisir pour moi de pouvoir discuter avec toi ce soir.
À bientôt.
À très bientôt. Bye bye.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Et rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas